Terre. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien le mardi 1er juin 2021, contrairement à ce que pourrait laisser croire ce générique de 1965. Bonjour à tous, c'est une journée spéciale sur France Inter pour célébrer les 100 ans de la radio, avec de nombreux rendez-vous tout au long de la journée, des voix célèbres, des moments mythiques, des auditeurs qui témoignent de leur profond attachement à la radio. Dans le 7-9 à 7h15, le Zoom, avec de jeunes amateurs fous de ce média, à 8h. 20, le grand entretien avec trois invités, une voix mythique des radios libres, Arthur, une voix historique de Radio France, Arlette Chabot, et le jeune animateur de la plateforme Twitch, j'ai nommé Domingo. Vos questions au standard d'Inter, vous devez connaître le numéro 01 45 24 7000. Et puis à 8h45, ne manquez pas la revue de presse signée aujourd'hui Claude Ascolovitch et Yvan Levaille, qui fait son grand retour au micro pour cette journée spéciale. Bon anniversaire à la radio et bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fin du quoi qu'il en coûte. À partir d'aujourd'hui, certaines aides aux entreprises disparaissent, d'autres diminuent. Le détail dès le début du journal après les autres titres.
Tomber le masque, faire la bise quand la vaccination fait oublier les gestes barrières. Les entreprises aussi ont leur rôle à jouer dans la lutte contre les violences conjugales. Après 4 mois de cauchemar en Birmanie, la résistance s'organise et puis elle s'affiche sur les réseaux sociaux, mais ne souhaite pas participer aux conférences de presse. Naomi Osaka quitte Roland-Garros.
Et attention à 7h50,
ah oui,
votre invité, Léa, attention.
L'acteur préféré des Français, Nicolas, pour fêter le succès monstre de Lupin, sa série sur Netflix qui cartonne et dont la suite sera diffusée à partir du 11 juin. Omar Sy a accepté de venir dans la matinale en direct, hein, il s'est réveillé. Il sera avec nous 7h50 et on est bien contents.
Ah, on est très heureux. À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
Le déficit public atteindra cette année un niveau record, 9,4% du produit intérieur brut, résultat du quoi qu'il en coûte pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Mais la situation s'améliore. Il y a 15 jours, les commerces ont pu rouvrir, les terrasses de restaurants, les cinémas, les musées et les théâtres aussi. Le gouvernement entend donc débrancher progressivement les dispositifs d'urgence. Des aides publiques disparaissent à partir d'aujourd'hui et d'autres commencent à baisser. Le point avec Isabelle Raymond.
À partir d'aujourd'hui, les commerces qui ont rouvert le 19 mai n'auront plus accès au fonds de solidarité. Le gouvernement estime qu'ils n'ont plus besoin de ce filet de sécurité. Pour les secteurs les plus exposés à la crise sanitaire, hôtellerie, restauration, tourisme, sport et culture, ces aides vont baisser progressivement tout au long de l'été jusqu'à s'éteindre normalement à la fin du mois d'août. Calendrier moins resserré pour le deuxième dispositif majeur, à savoir le chômage partiel qui a permis de maintenir en emploi plusieurs millions de salariés au plus fort de la crise, dégressivité progressive, là aussi des aides publiques et du salaire versé, mais pour les secteurs protégés, la prise en charge publique ne reculera qu'en septembre. Quant à l'aide à l'embauche d'un jeune, elle a pris fin hier soir, permettant en 10 mois de signer quelque 460 000 contrats de 3 mois minimum.
Une pression qui diminue dans les hôpitaux, 2 945 malades en réanimation, une campagne de vaccination qui fonctionne à plein régime, près de 25 millions de personnes ont reçu une première injection, dont Emmanuel et Brigitte Macron, qui ont profité de l'ouverture de la vaccination à tous les adultes pour recevoir une première dose. Vacciner, a tweeté le chef de l'État, pour nous protéger et protéger nos proches. Attention pourtant à l'effet primo-vacciné. Les gestes barrières doivent encore être respectés, mais depuis quelques jours, les masques ont tendance à tomber et la bise est de retour sur la canebière. C'est un reportage de David Ossiou de France Bleu Provence.
Les voilà par exemple à l'apéro. Des collègues de travail qui se retrouvent et tous se font la bise.
Oui, je fais la bise aux gens que je côtoie tous les jours, les collègues de boulot avec qui on est dans le même bureau, voilà. Dans le cercle proche en fait. Oui, je fais pas la bise dans les gens voisins ou autres dans la rue, mais les gens que je côtoie tous les jours, oui.
Je chante un baiser.
En face de Benjamin, il y a Gaëlle. Elle aussi a retrouvé ses habitudes. Terminez donc le simple check du coude.
Oui, on se fait la bise parce que dans un contexte privé, on a des relations qui font qu'on ne respecte pas forcément les gestes barrières. Le rapport humain, la chaleur humaine, tout simplement. Le fait ne serait-ce que de revoir des visages, des sourires qu'on avait perdu avec le masque, quoi.
Le plus cocasse, c'est que ces deux collègues travaillent à la sécurité sociale. Ni l'un ni l'autre n'est encore vacciné. Exactement comme Patrice. Mais lui, n'embrasse pas tout le monde.
Moi, mon frère, pas ma mère. Ma mère, elle m'a dit les quatre des quartiers trop mal famés. Elle m'a dit j'ai deux, trois amis, mais c'est con. Et après, je check le reste. Et j'en claque deux, trois.
Je chante un baiser.
Voilà, c'est comme ça.
Voilà, et vous aurez reconnu évidemment Alain Souchon. Les Britanniques ont-ils crié victoire trop fort alors que toutes les restrictions doivent en principe être levées dans 3 semaines? Le variant indien inquiète les autorités. Les contaminations sont à la hausse dans le pays, près de 30% en plus sur les 7 derniers jours, faisant craindre une 3e vague outre-Manche. Nous serons en direct de Londres dans le journal de 8h.
Il est 7h05, Agnès, le forcené en Dordogne a été interpellé.
Grièvement blessé lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre, l'homme a été hospitalisé dans un état grave. Le casier judiciaire de cet ancien militaire de 29 ans comporte 4 condamnations pour des violences conjugales. Il portait un bracelet électronique avec interdiction d'approcher la jeune femme, ce qu'il a encore fait dans la nuit de samedi à dimanche. Alors pour ces femmes victimes de violences, quel rôle peuvent ou doivent jouer les entreprises? Le gouvernement doit justement annoncer demain que la France va enfin ratifier la convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur les violences sexuelles. L'intégration de ce texte dans le droit français était attendue par de nombreux syndicats et associations féministes qui auraient aimé que le gouvernement aille encore plus loin, Claire Chaudière.
Le télétravail imposé 5 jours sur 5 aura eu pour conséquence de faire entrer brutalement la question des violences conjugales dans de nombreuses entreprises, explique Audrey Richard, la présidente de l'Association nationale des DRH, car il a fallu, dit-elle, répondre à la détresse de salariés femmes.
Victimes de souffrances dans leur foyer, de maltraitance dans leur foyer, ça a été une nouvelle réalité. On nous a demandé de l'aide.
Un retour exceptionnel sur site a souvent été autorisé.
Dans certains cas, on peut aller même plus loin, autoriser sur le temps de travail une salariée à effectuer des démarches pour retrouver un logement, des démarches de suivi psychologique, etc.
Autant de sujets qui auraient dû être inscrits dans la loi à l'occasion de cette ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les violences sexuelles, regrette Sophie Binet qui suit le dossier à la CGT.
Pour les entreprises, c'est pas grand-chose. Pour les victimes, c'est central. Garantir qu'elles ne puissent pas être licenciées quand elles sont victimes de violences conjugales, qu'elles aient accès à des jours de congés payés pour pouvoir s'organiser au moment où elles déposent plainte. Ces droits peuvent sauver des vies. On ne peut pas se contenter du volontariat.
Mais tout ne peut pas être inscrit dans la loi, répond l'entourage de la ministre du Travail. Mieux vaut pousser, ajoute-t-on, sur le terrain les entreprises à s'emparer de ces bonnes pratiques.
Et on en vient aux propositions de la France insoumise en termes d'économie et de social. Jean-Luc Mélenchon, premier candidat déclaré pour 2022, multiplie meetings et interventions sur les réseaux sociaux. Il est était hier encore l'invité d'une émission de télé sur son site, Laurence Perron.
Une émission de débat télévisé, tout ce qu'il y a de plus classique, avec même des pubs maison.
C'est celui de ceux qui se gavent.
Autour de la table, 2 économistes et 1 journaliste.
Je me réclame du plagiat que j'opère avec vos œuvres, réhabiliter le rôle de l'intellectuel dans la politique. Ce qui est l'instance suprême, c'est notre pauvre, misérable machin gris qui est sous notre cheveu, qui s'appelle un cerveau.
De fait, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à la bifurcation écologique, l'économiste Gilles Raveau applaudit.
On me vend des produits qui sont mauvais pour la planète, et c'est à moi, petit couillon dans les rayon de mon supermarché, à passer 3 heures à choisir ma tablette de chocolat. Évidemment que la question écologique est entièrement une question de production.
Réduction du temps de travail, d'une 6e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans, une garantie emploi pour les chômeurs, en revanche, pas de revenu universel, l'économiste Véronique Roche-Flores justifie.
Moi, je préfère nettement l'idée du partage de l'emploi que l'idée d'un revenu universel, ou on l'appelle comme on veut, qui se substituerait à l'emploi qui n'existera plus de demain.
Jean-Luc Mélenchon n'a en réalité qu'un but, 2022.
Il y a des moments où ça peut paraître difficile, et alors, quand est-ce que ça a été facile pour nous? Jamais. Mais comme dit mon petit camarade Ruffin, la fin, c'est nous qui allons gagner.
Et il entend bien continuer ainsi son chemin, qu'importe ceux qui entendent invoquer la vérité du prix des régionales.
Les régionales où la France insoumise n'a aucune tête de liste en position de s'imposer. Et puis chez les Républicains, réunion de crise aujourd'hui, après les propos de Guillaume Pelletier.
Il est 7h09, la Birmanie, Agnès, 4 mois jour pour jour après le coup d'état militaire.
Aung San Suu Kyi est toujours assignée à résidence. Les manifestations se font plus rares dans la rue après une répression sévère, mais la contestation se poursuit sous d'autres formes. Ainsi, de nombreux élèves et étudiants s'apprêtent à boycotter aujourd'hui la réouverture des écoles. Et les artistes soutiennent également le mouvement de résistance à travers leur travail. Juliette Verlin est à Rangoon pour France Inter.
Kin a installé son studio de photos dans un lieu tenu secret. Et pour cause, elle photographie des meneurs de la résistance. Sur un fond noir, elle a écrit les slogans de la révolution et place ses modèles devant.
J'ai voulu photographier l'un de mes amis, mais il a récemment été arrêté. C'est ça qui est aussi très important dans la révolution. Je veux documenter au cas où quelque chose leur arrive.
4 mois après la prise de pouvoir de la junte, la jeune femme accuse encore le coup.
Au début, en février-mars, je me disais qu'on se donnait 6 mois. Et que si on y travaillait tous, qu'on y mettait toute notre énergie, on pourrait stopper les militaires, mettre un terme à tout ça en 5-6 mois. Je réalise aujourd'hui que c'est un travail à long terme.
Même si le gouvernement parallèle formé par le parti d'Aung San Suu Kyi reste le point de ralliement de la résistance, pour Kyin, il est loin d'être représentatif des ethnies du pays et des idéaux de fédéralisme qu'il défend.
J'ai remarqué que les jeunes, surtout les étudiants, ne font pas du tout confiance au parti d'Aung San Suu Kyi, qui agit de façon centralisée, comme un parti unique dominant. Cette mentalité est toujours présente en eux.
La jeune femme compte exposer son travail à l'étranger et envisage d'aller trouver refuge en France dans les prochains mois. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
Assignation au garage pour les véhicules portant des vignettes critères 4. Les plus vieux moteurs diesel et essence ne peuvent désormais plus circuler en semaine entre 8h et 20h dans la zone à faible émission du Grand Paris. Cela concerne 79 communes à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86. Le tournoi de tennis de Roland-Garros avec un bilan encore bien maigre pour les Français. Sur les 9 tricolores qui disputaient hier le premier tour, seuls Caroline Garcia et Harmonitan ont remporté leur match. Journée marquée par le retour gagnant de Roger Federer et par l'abandon de la numéro 2 mondiale Naomi Osaka. La joueuse a préféré se retirer de la compétition plutôt que d'apparaître en conférence de presse, comme le stipule le règlement. Guillaume Batin.
Pas de conférence de presse pour Naomi Osaka à Roland-Garros cette année parce que les sportifs y sont comme des personnes à terre, frappées par une meute, explique-t-elle sur Twitter. Pas de conférence de presse non plus pour Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis qui organise le tournoi. Juste un communiqué de presse enregistré.
Nous sommes désolés et tristes pour Naomi Osaka. Le retrait de Naomi de Roland-Garros est une issue malheureuse. Nous lui souhaitons le meilleur et le plus prompt rétablissement possible. Et nous espérons revoir Naomi à notre tournoi l'année prochaine. Comme tous les autres grands chelems, nous restons très attentifs au bien-être de tous les athlètes et nous engageons à continuer d'améliorer, y compris avec les médias, comme nous avons toujours veillé à le faire.
Naomi Osaka explique sa dépression qui date de l'US Open 2018. « Je suis quelqu'un de timide, réservé, introverti, qui a du mal à apparaître en public. » Et pourtant, elle compte pas moins de 4 millions de followers sur les principaux réseaux sociaux où elle se met en scène en permanence, chez elle, en bikini, au bord de la piscine ou pour de la publicité.
Guillaume Batin, 10 Français en lice aujourd'hui à Roland-Garros, dont un duel Richard Gasquet, Hugo Gaston et puis entrée à lice également de Raphaël Nadal à la conquête d'un 14e titre porte d'Auteuil.
Merci Agnès Soubiran et à l'occasion des 100 ans de la radio, le zoom dans 3 minutes sur Radio Sommière, station animée par des 9-18 ans.